Les parts actualités.
Bon jeudi et bienvenue à l'émission des Parts actualités du 19 avril 2018. Au programme ce midi, autisme et handicap font le spectacle. Elle dénonce les conditions de son père en CHSLD. Comment aborder la sexualité avec de jeunes personnes trisomiques? En entrevue, je reçois Chloé Sainte-Marie, chanteuse, actrice québécoise, initiatrice de la Fondation Gilles Carle, qui viendra nous parler d'un nouveau manifeste pour soutenir les aidants naturels. Et aussi Alice Charras, directrice générale du RACOR, pour nous parler de la 66e Semaine nationale de la santé mentale qui se tient du 7 au 13 mai. Hélène Denis qui vous dit encore une fois bienvenue à l'émission. Autisme et handicap font le spectacle dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. C'est peut-être une coïncidence, comme le proclamait la publicité des producteurs de lait, mais dans les 6 derniers mois, 2 pièces de théâtre et un long métrage font courir les amateurs de théâtre et de cinéma en mettant en vedette des personnes handicapées et un autiste. Des spectacles de haut vol qui devraient mériter les plus grands honneurs. C'est déjà fait pour l'excellent film Maude, qui raconte la vie d'une pauvre handicapée de Nouvelle-Écosse, devenue après sa mort une peintre naïve de grande réputation. Ce long métrage a remporté le prix Écran du meilleur film canadien le mois dernier et sa vedette, Sally Hawkins, celui de la meilleure actrice. Une reconnaissance semblable est sûrement à venir pour les comédiens Benoît McGuinness et Sébastien René, ainsi que pour les metteurs en scène Hugo Bélanger et Jean Leclerc. Sous la direction de Leclerc, McGuinness incarnait Joseph Merrick, le Britannique aux nombreuses difformités rendues célèbres par la pièce de l'auteur américain Bernard Pomerance. Quant à Sébastien René, il donne actuellement au théâtre Jean Duceppe une performance décoiffante dans le rôle de Christopher, un personnage créé d'abord par le romancier anglais Mark Haddon. D'ailleurs, si je peux me permettre un aparté, nous le recevions hier en entrevue au Par Actualité. Son roman, au titre surprenant, « Le bizarre incident du chien pendant la nuit », s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Le dramaturge Simon Stephens en a tiré une pièce de théâtre qui fait le tour du monde. Pour l'instant, la pièce enchante avec raison les fidèles de chez Duceppe. Pour son dernier choix comme directeur artistique du théâtre, Michel Dumont a réussi un coup de maître. Athlète d'exception, la détermination de Sébastien Pilon, c'est dans la revue .qc.ca. À 3 ans, le terre-bonnien Sébastien Pilon a subi une opération à cœur ouvert qui constituait un certain danger pour sa vie. Près de 30 ans plus tard, il représentera le Québec en basketball lors de Jeux d'été nationaux d'Olympiques spéciaux du 31 juillet au 4 août en Nouvelle-Écosse. L'homme de 32 ans vivant avec une trisomie 21 et qui parle peu a été initié à ce sport par le billet d'Olympiques spéciaux Québec OSQ, local de l'Assomption, qui offre aux personnes présentant une déficience intellectuelle de pratiquer des activités sportives. Après avoir essayé le hockey COSUM et le soccer, Sébastien a eu un coup de cœur pour le basketball il y a 5 ans et est un fier membre des Pandas noirs depuis. Au fil du temps, l'athlète doué pour jouer un rôle défensif est devenu un redoutable passeur efficace pour relancer l'attaque. Les entraînements avec ses coéquipiers chaque dimanche, sans compter les 6 heures qu'il passe en gymnase chaque semaine, ont récemment rapporté. Les Pandas noirs ont remporté l'or des Jeux d'été d'Olympiques spéciaux provinciaux en 2017. Une médaille remise par Annie Pelletier, de qui Sébastien Pilon garde un précieux souvenir. C'est à la suite de cette performance que les Pandas noirs ont été sélectionnés pour participer aux Jeux nationaux cet été. 9 athlètes, dont Sébastien Pilon et Julien Leduc de Mascouche, ainsi que les 3 entraîneurs bénévoles s'envoleront en direction d'Antigoniche, dans l'est de la Nouvelle-Écosse, pour le tournoi de basketball qui se tiendra dans les gymnases fraîchement rénovés de l'Université Saint-Francis-Xavier. D'ici là, il doit amasser un montant de 825 $ pour payer sa partie des frais associés au voyage. On peut notamment l'encourager en contactant directement Mme Legris à mdscm@videotron.ca pour faire un don. Au bout du fil, j'ai le plaisir d'aller joindre Chloé Sainte-Marie, chanteuse, actrice québécoise à l'origine de la Fondation Gilles Carle, qui lance un nouveau manifeste pour soutenir les aidants naturels. Bonjour, Chloé.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Ah, ça me fait plaisir.
Alors, en premier lieu, Chloé, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus en quoi concerne, en quoi consiste, c'est le mot que je cherchais.
Oui, consiste, mais c'est beau de chercher ces mots comme ça.
Oui,
c'est
ça arrive.
Parce qu'on en a beaucoup dans la tête.
C'est vrai.
Il se bouscule au portillon.
Oui, tout à fait. Merci, merci. Vous êtes trop fine.
Alors, ce que consiste, c'est le but premier de cette fondation, c'est de trouver et de créer des lieux de répit, des maisons de répit pour les personnes en perte d'autonomie, pour donner du répit à l'aidant. C'est-à-dire qu'on prend la personne malade dans une maison Gilles Carle qu'on a créé un modèle à Coansville, et on décharge le fardeau à l'aidant et comme ça, elle peut se reposer chez elle, dans sa propre maison, dormir dans son lit.
Alors, c'est merveilleux. Vous aidez les aidants en aidant les aidés.
Oui, exactement. C'est très beau ce que vous dites. Puis on a créé une campagne web qui s'appelle aidonslesaidants.com.
Oui. Oui, alors parlez-nous donc de ce manifeste de la Fondation. Quel est ce plus récent manifeste de la Fondation Gilles Carle?
Bien, ce manifeste dit quoi? Dit que moi, j'ai été aidante et qu'il y a une urgence nationale à aider les aidants. C'est-à-dire, il y a 1,6 million au Québec d'aidants, puis il y a 1,6 million de personnes malades. Et que là, on a créé ce manifeste. En fait, c'est comme une lettre d'appui. Et on demande aux gens de nous appuyer et de se révéler et de signer le manifeste pour dire... C'est comme signer une pétition, en fait.
Oui.
Pour dire, oui, on appuie les aidants naturels, les proches aidants au Québec. Oui, c'est la cause numéro un avec le vieillissement de la population. Le Québec ne peut pas prendre en charge les 1,6 millions et il faut aider les aidants. Donc, c'est une lettre d'appui. On demande aux gens de signer ce manifeste.
Vous avez quand même pas mal de signatures jusqu'à maintenant. Aux dernières nouvelles, 4671 et peut-être qu'il y en a plus aujourd'hui. Mais...
Ah oui, il y en a plus. On a dépassé 5000. Là. Ça va.
Ah, ça va vite.
Oui, ça va vite. C'est exponentiel. Parce que, écoutez, il y a 1,6 million d'aidants et beaucoup de gens dans le milieu artistique, des gens connus, Jean-Michel Anctil, Penelope McQuaid, Marina Orsini.
Kim Thuy.
Oui, Kim Thuy, tous ont signé Laure Varidel, parce que tous, Laure, tous sont aidants.
Oui.
Alors, on va tous l'être, et donc, là, il y a comme, on dirait, une sorte de momentum charnière, et tout le monde se mobilise pour trouver une solution. En
fait. Alors, pour ceux et celles qui n'étaient pas vraiment sensibilisés à cette situation, à cette réalité, si on regarde ce vidéo où vous nous donnez beaucoup d'informations, vous nous faites aussi ressentir beaucoup d'émotions. Il y a une phrase, entre autres, qui m'a frappée. Plus de la moitié des aidants naturels meurent avant les aider.
Oui.
J'en suis pas revenue.
C'est une statistique vraie. Et c'est ça la grande c'est ça la tragédie. L'aidant qui prend soin meurt avant. Pourquoi? Parce que tous les services dans le système de la santé, tous les gens qui viennent aider au foyer, bon, Gilles Carr qui était mon mari, mais moi, je suis juste un cas type de tout ce qui se passe.
Ouais.
Et je n'avais jamais droit à de l'aide. Les médecins qui venaient l'aider, prendre soin de lui, les infirmières, les inhalothérapeutes, les diététiciennes, les ergothérapeutes, ils venaient pour lui, jamais pour moi. Et moi, j'étais en détresse, dans une fatigue extrême, et je prenais soin de lui, et je devais trouver l'argent pour payer les préposés, et jamais personne se souciait de mon sort.
Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez continué, malgré cette détresse, malgré ce manque d'argent, d'appui?
Ben, c'est l'amour.
Oui, hein?
C'est l'amour. J'ai le cœur, c'est l'amour de ma vie, mm-hmm. Et chaque personne, c'est le même cas. C'est pas de la compassion, c'est l'amour.
De l'amour pur.
L'amour pur, une mère que son enfant il naît handicapé ou quel que soit l'handicap, elle j'ai rencontré une femme la semaine dernière, son enfant a 24 ans, puis ça fait 24 ans qu'elle est aidante. Et pourquoi elle fait ça? C'est l'amour.
Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que vous diriez, Chloé, aux aidants naturels qui sont à l'écoute et qui se sentent justement seuls, qui se sentent isolés?
Ils ne sont pas seuls. C'est ça que je veux dire. On est là ensemble. Gilles Carr, il disait... Seul, on n'est rien. Mm-hmm. Seul, on meurt. Donc, on n'est pas seul. Et la Fondation Gilles Carr, Gilles nous a donné son aura, son esprit, ce grand Manitou, pour qu'on se tienne, pour qu'on s'entraide. Et puis, il a permis, grâce à sa résilience, puis il a été 17 ans dans une souffrance atroce. Là. Il disait que c'est une maladie démoniaque, diabolique. Ouais. Mais l'aidante, elle se sent seule parce qu'elle est dans sa maison. La maladie éloigne tous les amis et même la famille. Alors, on se retrouve, la personne, l'aidant et l'aidé se retrouvent seuls. Mais justement, il faut briser cette solitude.
Oui.
Et c'est par les maisons de répit et les maisons d'entraide. C'est-à-dire qu'il y a moyen aussi, c'est un des projets, c'est de mettre des coopératives ou des habitations d'entraide, on se met, disons, 5 aidants, 5 aidés ensemble, puis on se partage les tâches. Quand les aidés sont pas trop en perte d'autonomie, ça, là, c'est un grande et belle possibilité. Alors, mais quand les aidés sont quand même en perte d'autonomie avancée. Là, il faut des maisons de répit comme celles qu'on a créées à Cowansville, qui est un modèle extraordinaire. Il faut venir le voir, tout le monde. C'est fabuleux. C'est complet, presque à 100 %. Et on a 4 chambres, puis on s'est aperçu que 4 chambres, c'est pas assez.
Mais c'est sûr.
Il faut au moins 8 chambres, entre 8 et 15 chambres.
Et si on veut apporter notre soutien, bon, on va signer le manifeste le site, l'adresse aidonslesaidants.com. Et oui. Si on veut faire une contribution à la Fondation Gilles Carr, comment on s'y prend?
Ah, bien, c'est sur le site. Tout est là pour faire un don. Et tout est organisé. On reçoit des dons quotidiennement. Puis avec ces dons-là, bien là, on met... l'équipe est en place. Là, nos bureaux sont sur la rue Ontario et Davidson. Et ça va vraiment bien. On est dans une campagne de levée de fonds pour créer 5 maisons en 5 ans. Les 5 premières maisons qui seraient en Outaouais, à Prévost dans les Laurentides, sur la Côte-Nord, à Québec, à Grand-Mère. Donc, voilà le portrait. Mais Marguerite Blais, qui est notre première ambassadrice, et qui a été ministre des aînés et qui est extraordinaire, elle est venue voir la Maison Gilles Carr et elle a dit « Il faut une Maison Gilles Carr par MRC au Québec. »
Bien, c'est ce qu'on vous souhaite, c'est ce qu'on se souhaite aussi. Chloé Sainte-Marie, un grand merci pour votre présence à l'émission Les Paractualités. Merci pour votre dévouement, votre passion. Je vous souhaite aussi une bonne santé.
Mais, ah oui, j'en ai besoin.
Merci, puis merci. Au plaisir de vous reparler un jour de vos projets aussi en tant que chanteuse et actrice québécoise, parce que vous êtes toujours très populaire, mais là, on y reviendra un jour.
OK, merci beaucoup.
Merci, Chloé.
Au revoir.
Bloc régional, elle dénonce les conditions de son père en CHSLD. Une infirmière est préposée aux bénéficiaires au privé dénonce la piètre qualité des soins dispensés à son père atteint de la maladie d'Alzheimer au CHSLD Beaumanoir de Chicoutimi. Dans un long message publié dimanche sur Facebook et partagé 149 fois au cours de la journée de lundi, Véronique Perron s'insurge sans retenue contre une situation qu'elle estime être directement liée au manque de ressources humaines au sein de l'établissement regroupé sous l'égide du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle croit que la situation a un impact direct sur la qualité des soins dans ce centre d'hébergement et de soins de longue durée. Dans son long cri du cœur qu'elle amorce avec les mots « Partagez s'il vous plaît pour que mon père ait les soins qu'il mérite », Véronique Perron fait la nomenclature d'une série d'événements qui seraient survenus récemment entre les murs du centre d'hébergement. Des plaies aux pieds mal soignés, des couches qui débordent, un plancher sali d'urine laissée telle quelle pendant plusieurs jours, l'absence d'une infirmière responsable pour s'occuper de son père, des appels pour demander l'heure juste non rendue. Voilà quelques-unes des doléances émises par Véronique Perron qui voit en ces situations une atteinte à la dignité de son père. Véronique Perron a remarqué une dégradation de la situation depuis qu'une infirmière responsable de son père a quitté le centre. Elle n'aurait pas été remplacée. La 66e déjà Semaine nationale de la santé mentale va se tenir cette année du 7 au 13 mai 2018 et j'en parle avec Alice Charras, directrice générale du RACOR pour le Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'île de Montréal. Bonjour, Madame Charras.
Bonjour, Madame Denis.
Déjà 66e édition.
Oui.
Ça va vite.
Oui, puis on est bien contents.
J'imagine. Alors dites-nous ce qu'est la Semaine de la santé mentale.
Alors, en fait, cette semaine a été créée par l'Association canadienne de la santé mentale nationale du Canada. Et chaque mois de mai, donc depuis 66 ans, les Canadiens de plusieurs communautés, écoles, milieux de travail, se mobilisent pour la santé mentale. Et la chance que nous avons au Québec, c'est que nous avons deux campagnes qui sont lancées lors de cette semaine.
Mm-hmm.
Celle de Mouvement Santé Mentale Québec, avec ses 7 astuces. Et donc celle donc de l'Association canadienne santé mentale de Montréal, division du Québec, donc avec les autres filiales de la CSM, avec le message « Parler haut et fort ».
Et quels sont les messages, justement, que vous souhaitez véhiculer durant cette semaine à travers ces promotions-là?
Oui, alors le message, c'est que donc la santé mentale, c'est l'affaire de tout le monde et qu'il est important de prendre soin de soi. Aussi d'en parler ouvertement pour contrer la stigmatisation, démystifier la santé mentale. Donc il y a à la fois, si on veut, quelque chose d'individuel, mais aussi de collectif dans ces messages qu'on souhaite passer durant cette semaine.
Alors la campagne annuelle de promotion de la santé propose, vous l'avez mentionné, 7 astuces pour maintenir et accroître notre santé mentale. Quelles sont ces astuces?
Oui, alors cette année, ils mettent l'accent donc sur l'astuce agir, mais les autres astuces pour une bonne santé mentale sont ressentir, s'accepter, se ressourcer, découvrir, choisir et créer des liens.
De beaux mots.
De bons mots, puis comme on le dit, c'est pour tout le monde en fait.
Oui.
C'est pour une bonne santé mentale.
Alors, qui a pensé à ces astuces?
C'est vraiment dans le cadre de la campagne donc de Mouvement Santé Mentale Québec. Ça a été décidé déjà depuis la campagne de 2017-2018. Puis en fait, pour cette année, pour cette campagne de 2018-2019, on met l'accent sur la première astuce qui est
agir. Quelles sont les activités phares de cette semaine donc qui va se tenir à partir du 7 mai? Où exactement? À l'hôtel universel?
Alors, en fait, les activités, il y en a plusieurs. En fait, le plus important, c'est qu'on invite les organismes et les entreprises qui souhaitent, en fait, faire partie de cette campagne, souligner la santé mentale,
oui,
de télécharger des outils dont des affiches disponibles sur les deux campagnes disponibles. Donc, je peux même vous parler des sites sur lesquels on peut trouver ces outils-là. Et en fait, c'est vraiment le plus important à faire, c'est que c'est vraiment toute entreprise ou organisme communautaire qui souhaiterait souligner la santé mentale de télécharger ces outils-là pour en fait sensibiliser leurs employés ou leurs participants ou toute personne qui pourrait être concernée et peut-être sensibilisée par la santé mentale. Donc les deux sites web, le premier donc pour la campagne des 7 astuces, c'est www.mouvementsmq.ca
oui.
Santé
mentale Québec, non?
SMQ? Oui, pour Santé mentale Québec, oui,
oui.
C'est ça. Donc, Santé mentale Québec, smq.ca, / campagne avec un S, ou on peut simplement, donc pour l'autre campagne qui est de parler haut et fort, qui est plus donc dans la démystification de la santé mentale, simplement taper tout ensemble semaine-de-la-santé-mentale.ca et vous allez aussi trouver d'autres outils pour la santé mentale.
Alors, ces deux sites-là vont nous mettre vraiment, on va être au courant de tout ce qui concerne les activités phares de cette Semaine nationale de la santé mentale en allant sur ces deux sites-là.
Oui, c'est ça. Puis vraiment comprendre un peu plus d'où viennent les 7 astuces. Puis aussi, bon, la campagne Parler haut et fort. En fait, ces deux campagnes-là sont vraiment pertinentes pour cette semaine. Puis c'est vraiment l'occasion pour n'importe qui souhaiterait au sein de son entreprise ou même faire vraiment souligner la santé mentale, de pouvoir utiliser tous les outils mis à disposition.
Est-ce que c'est la première fois que vous décidez de déployer ou de décliner les deux thèmes, en fait, en deux thèmes pour faire la promotion de cette semaine-là?
En fait, nous, on décide pas. En fait, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça s'est présenté finalement. Le mouvement Santé mentale Québec est devenu une entité à part de l'Association canadienne de santé mentale. Mais ce qui fait que finalement au Québec, ça fait en sorte qu'on a deux campagnes distinctes, mais tout aussi importantes les unes que les autres.
Oui. Alors ça s'intègre bien les unes, l'une s'intègre
l'une,
bien à l'autre.
Oui. Tout à fait.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire? Parce que là, ça fait 66 ans que cette semaine-là existe. Est-ce que vous avez pu mesurer le progrès ou la régression, le recul?
Je dirais que le constat qu'on fait, c'est qu'on en parle davantage. Puis il y a toutes sortes de choses qui sont quand même faites. On connaît très bien Belle Cause pour la Cause, qui met l'accent sur la santé mentale, puis récolte des fonds pour ensuite financer des initiatives. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est pour ça que ces deux campagnes-là sont très importantes. Puis c'est toujours l'occasion d'aller toucher le grand public, surtout qui la santé mentale, c'est vraiment une affaire de tous. Puis il y a vraiment le côté prévention et sensibilisation qui est mis de l'avant. Autant en prendre soin de cette santé mentale-là et d'en parler. Et ces deux campagnes aussi mettent l'accent sur le fait que c'est correct par moment de se sentir moins bien et quels sont les outils aussi que je peux mettre en place, quelles sont ces astuces-là que je peux mettre en place moi pour me sentir mieux, mais aussi le parler haut et fort, mais l'emphase plus sur le côté collectif, que c'est une affaire vraiment qui concerne tout le monde et qu'on devrait tous être conscients de ça.
Et on retient un mot, agir, qui est une des astuces pour maintenir à croître notre santé mentale. Un grand merci Alice Charras, directrice générale du RACOR. Et puis, bonne Semaine nationale de la santé mentale du 7 au 13 mai 2018.
Je vous remercie.
« technologie Hope Child met en place de nouvelles approches d'intervention auprès des enfants autistes. Le gouvernement du Québec attribue par l'entremise du programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence, PAD, PADS, une aide financière de 200 000 $ à l'entreprise technologie Hope Child pour appuyer la réalisation d'un projet de recherche et de développement évalué à près de 682 000 $. Celui-ci vise la mise en place de nouvelles approches d'intervention numérique auprès des enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme avec ou sans déficience intellectuelle. Ces approches s'appuient sur une combinaison de différentes technologies liées notamment à l'intelligence artificielle, à la robotique, à la microélectronique et à l'informatique. Le député de Saint-François, M. Guy Hardy, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, à l'allègement réglementaire et au développement économique régional, M. Stéphane Billette. Grâce à cette initiative, les professionnels de la santé seront mieux outillés et auront accès à des technologies numériques de pointe pour aider les jeunes enfants autistes de notre région et de partout au Québec à développer pleinement leur autonomie. Nous sommes donc fiers d'appuyer la réussite de cet important projet qui contribuera à l'amélioration du bien-être des générations actuelles et futures, a déclaré Guy Hardy, député de Saint-François. Sur le site de Radio-Canada, comment aborder la sexualité avec de jeunes personnes trisomiques? Est-ce que tu voudrais faire l'amour avec moi? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu sais ce qu'est un condom? Amélie est bombardée de questions. Ce n'est pas « est-ce que tu voudrais faire l'amour avec moi, mais est-ce que tu voudrais faire l'amour ?» point d'interrogation, et ça finit là. À l'âge de 21 ans, elle a peu de réponses à donner à son père qui l'interroge. Toutefois, il est patient. Michel souhaite pouvoir outiller sa fille, atteinte de trisomie 21, pour qu'elle puisse un jour vivre ses propres expériences. Parler de sexualité avec son enfant n'est pas toujours chose simple, encore moins pour les parents de jeunes handicapés comme Michel Blanchard de Dieppe au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, il prend son courage à deux mains. Afin d'aborder le sujet avec sa fille Amélie, qui est atteinte de trisomie 21, une des déficiences intellectuelles les plus répandues au pays. Michel Blanchard ne voyait pas l'intérêt auparavant de parler de sexualité avec sa fille aînée, même si Amélie est assez âgée et qu'elle a déjà un petit copain également atteint de trisomie 21. Danny Soucy, qui a lui-même un fils trisomique de 26 ans, est l'un des animateurs de la formation Sex Cess. C'était un gros manque dans notre communauté. Les parents nous en parlaient, les enseignants nous en parlent, les gens avec un handicap eux-mêmes nous disaient qu'ils n'avaient pas l'information pour avoir une vie complète. Depuis près de 10 ans, l'Association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire s'est donné comme mandat d'offrir une formation afin d'aborder la sexualité chez les enfants avec une déficience intellectuelle, grâce donc à cette formation Sex Cess. Un grand merci à mes invités d'aujourd'hui. Chloé Sainte-Marie, initiatrice de la Fondation Gilles Carle, et Alice Charras qui nous parlait de la Semaine nationale de la santé mentale qui se tiendra du 7 au 13 mai. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson et Maurice Bolduc. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci à vous. On se retrouve lundi.